Françoise Vergès est actuellement titulaire de la chaire Global South au Collège d'études mondiales à Paris et consulting professeur au Goldsmiths College à Londres et chargée de mission pour le mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes. En France, on la connaît surtout pour avoir présidé le comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et pour ses travaux sur les mémoires de l'esclavage, Frantz Fanon, Aimé Césaire, l'Empire colonial, le musée postcolonial et les processus de créolisation dans les mondes de l'océan Indien. Ses recherches et ses engagements sur ces sujets puisent dans son expérience itinérante entre Nord et Sud. Elle est née en 1952, elle a grandi à La Réunion, mais c'est au lycée français d'Alger qu'elle a obtenu son baccalauréat. Dans les années 70, elle a vécu à Paris, où elle a commencé une licence en arabe et chinois avant de s'orienter vers le journalisme et l'édition féministe. Elle a voyagé au Chili et en Union soviétique pour recueillir des témoignages de femmes en lutte. En 1983, elle s'est installée aux États-Unis où elle a poursuivi sa formation universitaire en Women's Studies et en sciences politiques. Son rapport au féminisme est déterminé par ses circulations et il marque ses engagements militants, professionnels et universitaires. Françoise Vergès a été à Paris l'une des protagonistes du mouvement de libération des femmes dans les années 70. Comment, venue des post-colonies, considérait-elle ce mouvement ? Comment reconsidérer aujourd'hui l'histoire française du féminisme à l'aune de l'expérience des colonisés ?
Comment s'en sortir ? Vous avez été engagée dans le mouvement de libération des femmes lorsque vous avez émigré en France. Les militantes réunionnaises, martiniquaises, guadeloupéennes, guyanaises, issues des Outre-mer, semblent avoir été rares dans le MLF. Leur histoire reste méconnue. Dans quelle mesure votre expérience réunionnaise, puis algérienne, a-t-elle déterminé votre engagement féministe ?
Françoise Vergès répond : Oui, on peut dire que ces deux expériences vécues constituent une trame, une archive vivante où se fonde mon engagement. D'une part, ma vie, mon enfance, mon adolescence à La Réunion, qui sont fondamentales, et d'autre part mes années en Algérie. Ce n'est pas simplement d'avoir grandi dans un pays qui avait été une colonie esclavagiste, puis une colonie post-esclavagiste, puis une colonie d'assimilation, d'expérimentation de la politique assimilatrice, mais c'est d'avoir été témoin de ce qui fait la misère, de ce qui produit la peur, de ce qui produit le conformisme. Et par conséquent, d'avoir aussi été témoin de l'incroyable courage physique et moral que peuvent montrer des gens face à des systèmes qui vous poussent absolument à vous conformer. L'injonction assimilatrice punit férocement les personnes qui osent résister. La lente répression des sens, des rêves, des imaginaires que constitue la politique assimilatrice n'est pas négligeable. Elle est d'ailleurs le thème de toute une littérature. Mes parents, qui étaient des militants communistes, féministes et anticolonialistes, nous emmenaient partout, dans les campagnes chez les ouvriers agricoles, dans les bidonvilles, parmi les ouvriers, comme dans les milieux aisés. Ils nous ont appris à être à l'aise partout, mais aussi à observer et comprendre. J'ai vu ce que la misère faisait aux femmes. Je voyais des femmes d'une trentaine d'années se débattre pour vivre avec 6, 7 ou 8 enfants. J'ai aussi compris assez tôt que l'État exerce un pouvoir répressif, et que s'il vous prend pour cible, il n'hésite pas à frapper. Dans les années 60, la vie politique était très violente. Michel Debré, qui fut député pendant plusieurs décennies, avait fait de Lille son fief pour expérimenter des politiques de répression et d'assimilation. Souvenez-vous qu'il était fermement opposé à l'indépendance de l'Algérie et aux droits des femmes, une opposition qui est sans doute en lien. Il n'allait pas « perdre » entre guillemets cette île de l'océan Indien dans le contexte de la décolonisation et de la guerre froide. Donc, fraude électorale, censure de la presse, intimidation, répression, clientélisme et résistance. Il y a toute une violence que j'ai mise en mots plus tard, mais que j'ai observée très tôt. J'ai vu des gens en sang, des militants du Parti communiste réunionnais frappés par la police, emprisonnés, privés de travail, de papier. Lorsque mon père est entré en clandestinité, en 64-66, cet aspect de l'État, comme instrument répressif, est devenu très clair. J'ai connu les perquisitions de police à 6 heures du matin. Nous étions suivis, ma mère était menacée. J'avais alors 12 ans. J'étais encore une enfant. Mes frères étaient encore plus jeunes, j'avais une sœur plus âgée. J'ai donc pris conscience, assez tôt, de l'État et du rôle de la loi, à la fois comme recours et comme complice des politiques de représailles. J'ai appris à ne jamais sous-estimer ce que la peur installe, comme consentement à la répression, à la norme, pour éviter de devenir une cible, de se faire remarquer. La construction d'un « il vaut mieux faire comme on te le dit, si tu fais comme ça, tout ira bien ». Alors on tourne la tête de l'autre côté, on évite de voir et de protester, on se dit que si ces personnes sont harcelées par l'État, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. À La Réunion, cette norme a été associée à une forme d'économie de rattrapage liée au colonialisme et au néolibéralisme, dont l'injonction est la suivante. Il existe une norme que tu dois désirer, et elle est seulement, non seulement la plus formidable, mais la seule désirable. Donc, fais tout pour y arriver. Évidemment, vous n'y arrivez jamais. Et cette norme, c'est celle de la fiction de l'homme blanc bourgeois européen. Avec l'autre fiction, pas très loin derrière, d'une femme blanche à l'identité essentielle, bourgeoise et européenne. Nous devons adorer cette icône, cette idole, l'homme blanc bourgeois européen. Tout ce qu'il aurait fait, tout ce qu'il aurait inventé, les droits, l'industrie, l'entreprise, la ville, la culture, etc. Bien sûr, rien n'est dit du processus de fabrication de cet homme blanc et de sa compagne, du processus de leur blanchiment, de leur construction comme blanc. Cette norme, qui est liée à l'économie symbolique de rattrapage, s'impose à travers le désir, pas seulement à travers la répression. Elle est rendue désirable, à travers tout un vocabulaire. Autrefois, celui de la francité, aujourd'hui, celui de la société de consommation. Devenez cet individu moderne, mondialisé, et vous serez heureux. J'ai voulu connaître mon pays, le découvrir en marchant. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Il n'y avait pas toute cette publicité d'aujourd'hui sur La Réunion et tous les paysages. On partait 15 jours ou plus, on dormait à la Belle Étoile. Ça m'a fait connaître mon pays. J'ai marché partout. J'ai connu Mafate, avant que ça ne devienne le parc naturel de la tradition et de l'exotisme. Dans les montagnes, je me disais, c'est là que les marrons marchaient, c'est ça qu'ils ont vu, c'est là qu'ils rêvaient. Je voyais aussi comment les gens vivaient dans les coins les plus reculés. La nuit, qui peut être si belle à La Réunion, et la nature m'ont beaucoup marqué. J'ai vu à quel point la nature pouvait modeler l'imagination, la manière de vivre, la manière d'habiter un pays. La Réunion, l'île physique, avec ses cyclones, son volcan, ses ravines, ses forêts, s'est profondément imprimée dans mon esprit. En résumé, l'île reste ce concentré de vie extrêmement dynamique, de résistance quotidienne, de petites choses comme de grandes choses. J'ai ensuite atterri en Algérie par une suite de hasards. D'une part, je voulais quitter La Réunion, même avant d'avoir obtenu mon bac. D'autre part, je voulais connaître un pays qui était devenu indépendant de la France. Je voulais savoir comment ça s'était passé, car j'avais grandi dans un pays qui ne l'était pas. J'avais beaucoup entendu parler de la lutte du peuple algérien. Mon père avait été poursuivi pour avoir reproduit des articles condamnant la torture. Mon oncle avait défendu les nationalistes algériens, Djamila Bouyred, une des héroïnes de la bataille d'Alger, était devenue ma tante. Je n'étais pas spontanément attirée par la France. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi, mais je n'ai pas fait partie de ces colonisés qui avaient l'adoration de la France. J'aimais énormément la littérature française, je connaissais très bien l'histoire de France, je ne ressentais aucune hostilité, mais je voulais aussi ouvrir mon horizon. Je suis allée à l'école française, j'ai appris à lire en français, je chantais des chansons françaises. La France était très présente, mais elle était un des éléments de mes identifications. Un des éléments seulement. J'arrive donc en Algérie. D'abord, j'ai absolument adoré ce pays. J'ai beaucoup circulé, la Kabylie, les Aurès, le Sud. Et en même temps, c'était en 70-71. Pour les filles, c'était insupportable. J'avais des copines algériennes, on allait à la plage, on était interpellés par la police. « Ton père, ton frère, il sait où tu es ?» Mes amis devaient se cacher, mentir à leur famille, à leurs frères. C'était des filles de la bourgeoisie algérienne. Elles allaient au lycée français, au lycée Descartes d'Alger, comme moi. Un harcèlement quotidien. Il y avait cependant un bouillonnement culturel extrêmement riche. Alger était encore la capitale culturelle du tiers-monde. La cinémathèque avait une programmation extraordinaire. Tous les cinémas du tiers-monde y étaient invités. J'y ai développé ma cinéphilie. J'ai aussi beaucoup fréquenté le théâtre de Kateb Yassine. Les gens qui animaient la cinémathèque ou le théâtre étaient très ouverts. Ils voyaient arriver la jeune fille de 17 ans que j'étais et m'accueillaient. Je me suis fait des amis. Il y avait au lycée Descartes des enfants de réfugiés politiques fuyant la dictature militaire au Brésil, les guerres coloniales au Mozambique, en Angola. On formait une bande de copains qui partageaient le sentiment que le monde était vaste et passionnant. Mes parents m'avaient enseigné une cartographie du monde qui excédait les frontières de l'île ou l'axe Réunion-Paris. À son arrivée en 1954 à La Réunion, ma mère avait ouvert une librairie, la librairie des Mascareignes, dans la rue où se trouvait l'école centrale. Elle avait été obligée de la fermer parce que personne n'achetait de livres. La majorité de la population était analphabète et les autres ne lisaient pas ou très peu. Tous les livres sont revenus chez nous. On a grandi avec une bibliothèque formidable, des romans sud-américains, américains, russes, anglais, français, une littérature totalement en contraste avec le Lagarde et Michard de l'école. Mes parents recevaient des journaux du monde entier. Des gens venaient voir mon père, ils arrivaient d'autres pays du monde. Mes parents voyageaient. Ils sont allés au Vietnam du Nord pendant la guerre, ils rapportaient des témoignages, des reportages. En Algérie, cette conscience d'un monde transversal s'est renforcée. J'y ai vu des traces de la guerre, les bâtiments des SAS dans les montagnes et aussi des gens traumatisés. Ça a été un deuxième terrain pour observer ce que la violence fait aux gens. J'ai vu que ça laisse des traces indélébiles et que ça ne s'efface pas comme ça, qu'on peut vraiment abîmer les gens avec la violence et qu'il faut y penser. Mais aussi, quelle pulsion de vie, quel humour! J'ai découvert à Oum Kalsoum la musique algérienne, la musique du Sud, les auteurs algériens. L'Algérie a été pour moi une deuxième archive extrêmement importante. J'ai passé mon bac de justesse et je suis venue en France, à Aix-en-Provence, pour entreprendre des études d'arabe et de chinois. J'ai tenu 3 mois. Trop froid, trop dur. Je suis repartie en Algérie où j'ai passé encore une année. J'apprenais l'arabe et je participais à la vie culturelle et intellectuelle. En mai, je ne sais plus pour quelle raison, je suis allée en France et j'ai assisté au défilé du 1er mai. Il y avait des femmes du MLF. J'ai attrapé des tas de journaux, des tas de tracts. Ça me semblait formidable. De retour en Algérie, mes copines algériennes voulaient quitter le pays. Qu'allais-je y faire? Je n'y voyais plus mon avenir. J'ai donc quitté l'Algérie et émigré en France. J'ai vécu dans une communauté qu'on avait installée dans le 18e arrondissement de Paris. Une copine algérienne, un réunionnais, 2 Français et puis moi. D'autres sont venus après. On s'est impliqués dans les luttes antiracistes, notamment à Barbès, dans le Secours Rouge, le soutien au Larzac, à Lippe, dans le groupe d'information sur les prisons, l'antipsychiatrie. Je fréquentais aussi le cercle Elisabeth Dimitrieff, un groupe féministe. Je me suis engagée dans la campagne pour la légalisation de l'avortement en participant aux manifs, en distribuant des tracts sur les marchés. Avec ma copine algérienne, Nida, on était très avides, on glanait. On faisait des petits boulots, on vivait en communauté, on était dans une émulation culturelle et politique constante. À l'été 72, j'ai participé à la rencontre de la Tranche sur Mer, le premier rassemblement féministe européen. Ida et moi, on avait fait du stop, on y est allé le nez au vent. On n'était associés à aucun groupe, mais on voulait aller voir, écouter. Et plus tard, j'ai commencé à aller à des réunions de psychépo, et j'y suis restée. La question de la psychanalyse m'intéressait énormément, et ça m'a un tout petit peu éloignée des autres groupes de femmes. La question de l'inconscient, le fait qu'on soit agi par l'inconscient, comment se construisent la masculinité, la féminité. J'avais plus ou moins compris que à La Réunion et en Algérie, qu'il y a autre chose qui nous anime que la raison ou les intérêts. L'inconscient, la mélancolie, le deuil, les névroses étaient des questions plutôt mal considérées dans l'extrême gauche. Et pourtant, à voir comment l'inconscient agissait dans ces groupes. Tout en commençant à m'impliquer à Psychépo, je continuais à militer ailleurs. Les luttes contre le racisme, les luttes anti-impérialistes, les manifestations contre la guerre au Vietnam, les comités Palestine, les campagnes d'alphabétisation des vieux travailleurs immigrés à qui on apprenait à lire leurs fiches de paie. On est aussi intervenu sur une usine, comme on disait, l'usine Alstom à Saint-Ouen. Je connaissais les ouvriers à La Réunion, mais pas la classe ouvrière française. Je ne peux pas dire que j'ai bien connu les ouvriers français, mais le peu de contact que j'ai eu m'a enseigné des choses. L'entrée à l'usine alors qu'il fait encore nuit, les cafés autour, l'humour, la lutte âpre. J'ai aussi découvert les conditions des femmes ouvrières. Ce n'était pas abstrait, c'était très concret. Je participais aussi à des rencontres d'Antillais, Guyanais, Réunionnais. À la convention du Morne Rouge, je m'impliquais dans le débat sur l'avenir de ces terres. Je militais auprès de l'Union Générale des Travailleurs Réunionnais en France, UGT-RF. On se battait notamment pour l'abrogation de l'ordonnance Debré et pour que ses victimes puissent rentrer au pays. On a manifesté devant le Conseil d'État pour soutenir les grévistes de la faim qui réclamaient son abrogation. On allait à Rouen, à Toulouse, à Lyon ou ailleurs pour rencontrer des Réunionnais. On discutait de leurs conditions de vie et de travail. L'organisation des immigrés réunionnais sous la direction de Gervais Barret était très forte à l'époque. Je me disais que je ne pouvais pas être exclusivement dans un groupe féministe. Je trouvais qu'on n'y discutait pas suffisamment du racisme, des immigrés, du colonialisme. Je gardais donc un pied dans d'autres formations, d'autres activités. Je n'ai jamais été totalement encartée, comme on dit. Ce n'est qu'à partir de 1979 que le plus gros de mon militantisme a été à Psyché Po. Mon identité postcoloniale, c'est peut-être ça, mon identité réunionnaise, a déterminé mon intérêt pour les luttes contre le racisme, contre le colonialisme ou l'impérialisme. Elle a modelé mon engagement féministe. Je me suis intéressée au mouvement des femmes noires qui militaient notamment au tout début, contre l'excision, au groupe de femmes antillaises. Aucune lutte ne peut être envisagée sans tenir compte de la place qu'y ont les femmes non blanches ou les minorités sexuelles ou culturelles. Dans l'UGTRF, quelques-unes d'entre nous ont apporté cette dimension à la lutte contre le bumidum. Ils promettaient je ne sais quoi aux femmes réunionnaises qu'ils faisaient émigrer en France. Mais beaucoup se retrouvaient sans formation ou alors destinés à devenir des domestiques. Il n'y a pas eu que ça, mais cet aspect était scandaleux. C'est dans cette continuité que je me suis plus tard engagée dans la collection « Femmes en lutte de tous les pays » aux éditions des Femmes. L'UGT-RF tenait des stands à la fête de l'UMA. Ça nous permettait de rencontrer des réunionnais autour d'un carry, d'un petit coup de rhum. Elles organisaient aussi des balles. Beaucoup, beaucoup de réunionnais venaient. C'était l'occasion de rencontrer des réunionnaises, de discuter avec elles. Leur situation était moins connue que celle des martiniquaises ou des guadeloupéennes. Certaines étaient recrutées dans les hôpitaux, à la RATP ou au PTT. Dans les postes de catégorie C, il ne faut pas l'oublier. Et elles étaient bien moins nombreuses que les antillaises dans les entreprises publiques, parce que l'immigration réunionnaise a été plus tardive et plus faible que celle des Antilles. Les réunionnais et les réunionnaises ont surtout travaillé dans le privé. Les réunionnaises étaient très dispersées, il n'y avait pas lieu de travail où les rencontrer de manière collective. J'ai finalement rencontré des jeunes femmes, sans doute contactées dans des balles qu'on organisait. On les a invitées dans la communauté, à nos réunions militantes du dimanche, après-midi. Elles cachaient qu'elles venaient nous voir, car elles avaient très peur d'être envoyées au pays pour avoir rencontré des gens de l'UJTRF. Elles nous ont raconté leur quotidien. C'est comme ça qu'on a appris que certaines, à leur arrivée en France, étaient rassemblées à Crouy-sur-Ourcq, dans une maison louée par le Bumidon. Crouy-sur-Ourcq est assez loin de Paris, en Seine-et-Marne. Pour y aller, il fallait prendre le train. Les femmes y étaient rassemblées à leur arrivée en France pour recevoir, pendant quelques semaines, une formation. Apprendre à faire le ménage, le repassage, la cuisine. Certaines étaient placées en stage chez des bourgeois pour voir si elles allaient convenir. Ça m'avait rendue absolument folle de rage. Le fait qu'on les fasse venir pour qu'elles deviennent domestiques me rendait folle de rage. Toujours cette racialisation de la main-d'œuvre. Ça continue aujourd'hui d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir celles qui s'occupent des personnes âgées ou des enfants. C'est la racialisation du care. On s'est demandé quelle action entreprendre. On a décidé d'occuper Crouy-sur-Ourcq pour faire un barouf et protester. On nous avait dit que ces femmes ne pouvaient pas venir à Paris car les billets de train étaient chers. Elles n'avaient pas d'argent et elles n'avaient aucun repère à Paris. Il y avait donc un accroissement de l'isolement, un affaiblissement de l'autonomie. Leur dépendance était organisée. Vous êtes moins autonome quand vous ne savez pas où aller et comment. Un dimanche après-midi, on s'est donc rendu à Crouy-sur-Ourcq avec des copines militantes de l'UGTRF et deux ou trois copains. Il y avait du brouillard, je suppose que c'était l'hiver, c'était absolument sinistre. Il n'y avait rien. Dans ce petit bled, elles n'avaient rien à faire. Et ces jeunes femmes noires, tout le monde les regardait lorsqu'elles sortaient. Alors elles restaient à l'intérieur de la maison. On a poussé la porte, on est rentré, on a jeté des tracts, on a protesté, on a dit aux filles qu'il fallait se battre. On est parti avant l'arrivée de la police. Ça a été un coup, comme ça, mais qui n'a pas été suivi, parce que très peu d'organisations s'intéressaient à leur sort, que ce soit les organisations d'immigrés, les organisations d'extrême-gauche française ou les organisations syndicales. Sous l'appellation générique « les immigrés », on parlait surtout des hommes. Ce qui arrivait aux femmes suscitait très peu d'intérêt, encore moins ce qui arrivait aux réunionnaises. L'UJTRF avait un petit journal de 6 à 8 pages, Combat réunionnais, et nous avons consacré un numéro spécial à ces femmes. Par la suite, on a essayé de continuer à organiser les femmes réunionnaises, mais on n'a pas réussi. Il y a beaucoup de femmes dans l'émigration réunionnaise, beaucoup plus qu'on ne le pense, mais elles sont restées assez invisibles. C'était très difficile de les identifier, et puis ce qu'on voulait n'était pas nécessairement ce qu'elles voulaient.
Le Bumidom a été une politique migratoire instaurée pour conjurer les luttes de décolonisation. Cette politique coloniale faisait émigrer la jeunesse pauvre de peur qu'elle ne rejoigne le Parti communiste réunionnais. Elle s'est accompagnée d'une politique de limitation des naissances. Les familles réunionnaises étaient jugées trop nombreuses, les femmes trop fécondes. Les réunionnaises ont donc été soumises à cette politique. Contraception et avortement leur ont été imposés, alors même que cela restait illégal en France. Vous militiez en France pour la légalisation de l'avortement. Est-ce que vous articuliez cette lutte avec les batailles menées à la Réunion contre cette politique antinataliste ?
Absolument. Je savais ce qui se faisait à la Réunion, les avortements, puis les formes de contraception brutales qui étaient imposées. Je connaissais l'incroyable discours contre la natalité de ces femmes qui font des enfants comme des lapins. C'était du racisme. Il y avait une chose que je trouvais fondamentale, non négociable, c'est que les femmes aient un droit sur leur corps. Ça me rendait dingo que des hommes puissent décider ce qu'on allait faire de notre corps. Ce principe de base n'était pas en contradiction avec les politiques racialisées de contraception et d'avortement. Là, c'était les représentants de l'État postcolonial qui décidaient du corps des femmes. J'étais tout à fait consciente de ça, mais c'était difficile à faire entendre en France. Je n'ai aucun souvenir d'une action de solidarité avec des femmes réunionnaises. Il y a eu des articles ici et là, mais une vraie campagne de solidarité, non.
Vous avez publié ces articles dans la presse réunionnaise, dans Combat réunionnais et dans Témoignages, mais pas dans la presse du MLF. Il y a peu de traces de la situation des femmes des post-colonies dans les archives de la presse féministe en France.
Je me souviens d'avoir réussi à faire passer un article concernant des Mauriciennes dans Des femmes en mouvement. C'était au début des années 80. Leur migration était organisée par des agences matrimoniales pour qu'elles viennent épouser des paysans français qui ne trouvaient pas d'épouse. Dans leur pays, elles vivaient dans une grande misère et épouser un blanc en France, c'était une manière de sortir de cette misère. Elles se retrouvaient femmes de paysans dans la Creuse, le Tarn ou le Limousin. Toutes ces histoires n'ont pas été dramatiques et tragiques, mais c'était quand même un trafic. Ça me rappelait d'autres histoires dont j'avais été témoin étant petite. Des annonces étaient publiées dans le journal Le Chasseur français, qui était très distribué à La Réunion. Cherche femme. Je me souviens de femmes qui étaient parties pour ne plus être domestiques. Il y avait des échanges de lettres, puis le type payait le voyage et faisait venir la femme. Pour elles, c'était un moyen d'échapper à la misère. Mais ce qu'elles allaient trouver de l'autre côté, on n'en savait pas grand-chose. Aujourd'hui, à La Réunion, une nouvelle forme d'échange sexuel est en place. Il y a des pages entières d'annonces qui précisent quel partenaire est souhaité. Malbarès, Catherine Chaude, ce peut être aussi un partenaire. Et l'émission radio Chaleur Tropicale, qui est très populaire, est aussi assez parlante sur les mœurs sexuelles. La prostitution est assez cachée, elle existe surtout en appartement. Dans la rue, ce sont surtout des femmes malgaches qui sont l'objet d'abus et de violences. Il y a des associations qui interviennent, mais elles sont souvent très paternalistes.
Quel regard portiez-vous sur les militantes du MLF, sur leur intérêt ou désintérêt par rapport aux questions liées à l'impérialisme, à l'internationalisme ou aux femmes immigrées, aux femmes des Outre-mer?
Je me souviens d'une réflexion qu'on m'avait faite. Oh, mais ça, c'est Françoise avec son tiers-mondisme encore. Le MLF était assez franco-centré. Il y a eu des exemples de solidarité et d'intérêt pour des luttes de femmes antillaises et d'ailleurs, mais le processus de décolonisation du mouvement féministe ne s'est pas engagé. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais en général, le mouvement féministe français n'a jamais été très ouvert à toutes ces questions. Souvenez-vous que le féminisme français s'est allié en majorité à la mission coloniale civilisatrice, au républicanisme colonial. Le mouvement féministe français ne s'est pas fondé sur l'anticolonialisme et l'anti-esclavagisme. Heureusement, il y a quelques figures qui se dégagent pour faire un peu moins honte. Mais vous n'avez pas, comme en Angleterre ou aux États-Unis, un mouvement féministe qui se fonde sur l'anti-esclavagisme, certes avec ses contradictions et ses trahisons, mais malgré tout avec une notion des intersections. À Psychépo, je me souviens de la présence de femmes corses et de quelques algériennes. Mais je n'ai pas souvenir d'une réflexion profonde sur le racisme, les héritages du colonialisme, ou la manière dont les mouvements de gauche avaient été contaminés par la ligne de couleur.
Ont publié l'ouvrage d'Angela Davis, « Femmes, race et classe » en 83, des témoignages de femmes salvadoriennes, chiliennes. Psychépo a organisé des pétitions internationales de soutien à Nawal El-Saadawi, à des femmes emprisonnées au Salvador, ou pour protester contre la peine de mort contre Jiang Qing, l'épouse de Mao Zedong. Car nous pensions que la campagne contre elle était très misogyne. On ne peut donc pas dire qu'il n'y ait rien eu. Et du côté des groupes féministes trotskistes, l'intérêt pour les luttes de femmes non européennes était plus marqué. Mais je pense qu'au MLF, très peu avaient vécu hors de France. Il n'y avait que très peu de conscience des autres situations, du poids du racisme. Ces autres situations restaient abstraites. J'entendais « les femmes sont écrasées en Iran » ou « donc on va faire des choses pour elles ». Donc on va faire un article. Mais il y avait une conscience très faible de ce qu'est vraiment une guerre impérialiste, de ce que c'est l'exploitation de la masse de gens dans le monde, la création de personnes superflues, écrasées, opprimées et qui doivent se battre chaque jour pour survivre. Mon expérience au mouvement des femmes a aussi été celle des luttes intestines violentes. La solidarité n'est pas spontanée parce que vous êtes du même sexe, de la même couleur ou de la même religion. Jalousie, envie, lutte pour le pouvoir ne nous étaient pas étrangères. J'en étais. À Psychépo, j'ai été quelqu'un au centre du pouvoir, car c'était un groupe hiérarchisé. Mais à cause de mes autres identifications, je pense, j'espère, avoir toujours gardé quelque chose qui me rattachait au monde non blanc.
Dans les publications des éditions des femmes, la dimension internationaliste est frappante. Néanmoins, la dimension impériale française semble totalement effacée.
Cette dimension n'a jamais été abordée. C'était le point aveugle. J'étais au Chili pour recueillir les témoignages de femmes ou en Russie pour rencontrer des féministes publiant les samizdat. J'étais très active dans la solidarité avec les femmes du Salvador ou encore dans le soutien à Nawal El-Saadawi. Mais je n'ai pas réussi à égratigner le franco-impérialisme. Les femmes esclaves, les femmes colonisées, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il n'y avait même pas conscience que la France avait été une puissance impériale, et qu'elle l'était encore. Ça a été un des écueils sur lesquels je suis partie. Lorsqu'on observe les histoires du féminisme qui ont été écrites en France, on s'aperçoit que la plupart sont des histoires totalement franco-centrées. Elles évoquent des batailles dans le MLF, qui sont très intéressantes, mais elles ne disent pas grand-chose de ces limites idéologiques internes qui ont fait que ce mouvement n'a pas su s'intéresser à la société telle qu'elle devenait. En 1982-83, il y a eu des bagarres terribles à l'intérieur du MLF qui ont contribué à l'affaiblissement du féminisme. Psychépo avait déposé une propriété sur le label MLF. La maison d'édition des femmes était en sommeil. J'étais au chômage. Fin 83, je suis allée aux États-Unis pour des raisons personnelles et j'y suis restée. J'ai travaillé 2 ans comme femme à tout faire pour des Françaises qui m'exploitaient complètement. Au bout de ces 2 ans, je suis partie et j'ai fait en sorte de rentrer aux États-Unis de manière légale, parce que j'étais illégale. Je vous passe toute une série de détails personnels. En 85, j'ai vécu au Mexique plusieurs mois à attendre que mon entrée aux USA soit régularisée. J'ai fait l'expérience du passage de la frontière, l'hystérie autour de la question de la frontière avec le Sud, tracée par la frontière avec le Mexique, émergeait avec force aux États-Unis. Les guerres au Salvador, au Guatemala, au Honduras poussaient des femmes et des hommes vers El Norte. J'ai observé de visu en quoi consiste le processus par lequel un État vous fait passer pour vous accepter. C'est un peu mets-toi à genoux, embrasse nos pieds pour que nous t'acceptions. C'est un processus qui vous met en dette, un processus de petites et de grandes humiliations, d'angoisse, de stress, d'inquiétude. Même moi qui étais citoyenne européenne, donc qui n'avais pas à repartir dans un pays en guerre si je n'étais pas acceptée, j'ai connu tout cela. Mais tout autour de moi, il y avait des hommes et des femmes qui n'avaient pas ce privilège d'être citoyennes d'un pays puissant. Je me souviens que nous avons été séparés des hommes pour les examens médicaux. Je bavardais avec ces femmes. Elles venaient du Salvador, du Honduras, du Guatemala, du Mexique. Elles essayaient de fuir la misère et la guerre. Elles dormaient la nuit devant le consulat américain pour être là les premières. Elles restaient des heures sous le soleil à attendre. L'examen médical a été une totale humiliation. On était à moitié nus, vêtus d'une petite robe en papier ouverte sur nos fesses, en rang devant un médecin homme qui nous auscultait les unes après les autres, tâtait nos seins, regardait dans notre bouche. Je vivais dans un petit village au sud de Tijuana. Je venais au consulat US à Tijuana pratiquement deux fois par semaine pour mes papiers. Je les ai finalement obtenus et je suis passée aux États-Unis, à San Diego, où j'ai repris les études que je n'avais jamais faites, après avoir travaillé quelques mois comme femme de ménage dans une agence qui employait surtout des Mexicaines. À l'université, je suis rentrée en contact avec des personnes qui travaillaient sur la question de la frontière, de la frontera, et j'ai pris contact avec des artistes et des féministes chicanas et latinas. Parmi mes professeurs, certaines sont devenues des amies pour la vie. En 89, j'ai été admise à l'université de Berkeley. J'ai rejoint les luttes contre la guerre au Salvador, contre l'invasion du Panama. Je suis allée avec des amies féministes américaines faire des enquêtes sur les violations des droits des femmes au Salvador et au Panama. Au Salvador, on a été arrêtés et jetés en prison. Là encore, expérience de la peur et de la solidarité, les femmes qui nous avaient invitées se sont mobilisées tout de suite. Elles risquaient bien plus que nous. À l'époque, San Francisco était au cœur de l'émergence des théories queer et des luttes contre le sida. Avec des amis que je m'étais faites, nous avons organisé une conférence annuelle féministe et transdisciplinaire à l'université. Nous luttions contre l'effacement des différences que j'avais connues en France et pour l'analyse en intersection.
Et aujourd'hui, comment voyez-vous le mouvement féministe ?
Il y a des féminismes, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Sans parler d'un féminisme universel, y a-t-il des frontières ? Par exemple, est-ce qu'un féminisme doit soutenir les luttes des gays, lesbiennes et transsexuelles, quelle que soit la culture où elle vit ? L'appel à la tradition, que faut-il en penser quand on sait que la tradition n'existe pas en soi, mais qu'elle est configurée et reconfigurée ? La religion et le féminisme ? Classe et sexe ? Nation et sexe ? Guerre et sexe ? Capitalisme et sexe ? Il y a toute une bibliothèque sur ces questions, toute une réflexion des féministes africaines, américaines, sud-américaines, africaines, asiatiques, à laquelle j'ai assisté et contribué quand je vivais aux États-Unis. Tout un décentrement d'un féminisme jusqu'ici associé à l'Occident. Il y a de plus en plus d'échanges sud-sud, de plus en plus de relectures du religieux, des mouvements émancipateurs, de la sexualisation de la marchandise. Les mouvements des peuples autochtones posent de nouvelles questions sur la relation à la nature, à la communauté, à la terre. De nouvelles formes de colonisation requièrent un nouvel effort de pensée. Comment répondre aux nouvelles formes de démesure, de pillage, de spoliation ? Il faudrait sans doute aussi que les sciences humaines et sociales sachent mieux converser avec les sciences du vivant. En France, le mouvement féministe ne pourra pas faire l'économie de sa propre décolonisation, d'un retour sur une histoire complexe avec d'un côté des figures comme Louise Michel qui prend le parti des Kanaks et de l'autre des figures progressistes ou révolutionnaires qui se voient comme les guides de l'émancipation et qui parlent pour toutes les femmes. Renouveler l'écriture de cette histoire, en montrer les complexités, les écueils, les contradictions. Le féminisme a toujours été divers et il l'est encore, mais sur la question de l'empire, il reste assez inaudible. Aujourd'hui, la présence de l'islam, des femmes immigrées, les nouvelles formes de racialisation du travail posent des questions urgentes. À La Réunion et dans les autres territoires postcoloniaux de la République, je pense que le même processus doit être à l'œuvre. Y a-t-il un féminisme réunionnais ? Doit-il être une simple copie du féminisme français ou doit-il élaborer une pratique et une théorie qui tiennent compte du passé esclavagiste et colonial ? De la pluralité de la population, de la situation de dépendance à la France. Il y a eu de profondes mutations dans la société réunionnaise. Depuis 1946, elle a été multipliée par 3. Le monde rural s'est effondré sous les coups de la réorganisation de l'industrie sucrière. La société de consommation a transformé les manières de vivre, de recevoir et de se présenter. Les inégalités se sont creusées. La société a ses people, ses élections de miss, des liens se sont recréés avec les pays d'origine, mais l'université produit peu de théories. Il y a le côté « île de tous les métissages », qui d'une part décrit une réalité, pourrions-nous dire, mais d'autre part masque un racisme proprement réunionnais, celui du sujet français de la colonie qui colonise. Je proposerai, mais ce n'est qu'une proposition, je n'y suis pas, une extrême attention aux paroles des femmes des classes les plus pauvres. Moins de femmes éclairées, qui sauraient mieux ce qui convient aux femmes. Une vraie relation avec les femmes malgaches, mauriciennes, africaines et indiennes, les femmes du monde indiano-océanique. Et finalement, un peu plus de théorie. Mais aucun processus d'émancipation ne se fera en vase clos. Il faut de la circulation, de la confrontation d'idées, accepter d'être remise en question, être assez humble. Ce n'est pas facile, comme ce n'est pas facile de reconnaître qu'on s'est laissé séduire par des idéologies de pouvoir et de maîtrise. Mais c'est libérateur, je peux vous le dire, pour être passé par là. Je pense qu'il faut mettre en théorie et en pratique le principe de déplacement. Faire le pas de côté nécessaire pour ne pas s'enfoncer dans l'illusion d'une vérité révélée et établie quand il s'agit de faire avec des êtres humains, donc avec des êtres humains soumis à des contextes changeants et animés de passions et de sentiments. Le féminisme n'est, nulle part, une vérité révélée, mais un outil pour penser la situation des femmes, leur oppression et leur émancipation, qui se fait et se fera en intersection avec d'autres luttes. Donc c'est un entretien avec Françoise Vergès qui a été réalisé par la revue Comment s'en sortir, en 2013.